Bonjour Damien Hamad.
Bonjour Frédéric.
On a appris hier la mort de Serge Dassault, patron du groupe du même nom, groupe d'aéronautique, mais aussi patron de presse avec le Figaro et homme politique également. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous ?
Il représentait l'industrie, il représentait la politique, il représentait la ténacité, le courage. J'ai eu l'occasion de le connaître comme parlementaire et c'est quelqu'un de très engagé pour sa ville, bien sûr, mais aussi pour son entreprise. Et c'était un homme à la fois, je crois, de cœur et de courage qui va manquer, bien sûr, à la France et notamment, bien sûr, à Dassault, à l'entreprise qui est un fleuron pour nous, industriels, bien sûr.
C'était aussi quelqu'un qui n'hésitait pas à dire les choses de manière des fois un peu abrupte, en mettant les pieds dans le plat. Par exemple, sur les 35 heures, il disait que c'était le cancer de la société. Est-ce qu'au fond, il ne représentait pas un patron et un homme politique comme on n'en fait plus certains diraient de l'ancien monde, peut-être même du très ancien monde, non ?
Oui, il incarnait ce capitalisme familial, il avait des choses à dire. Moi, je me souviens d'une intervention en réunion de groupe de sa part sur pourquoi il fallait supprimer l'ISF à l'époque
et l'impôt sur la fortune.
Et c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche, qui disait les choses, qui avait des convictions, qui les défendait et qui incarne ce capitalisme familial dont on a besoin parce que c'est un capitalisme ancré sur les territoires et qui crée de l'emploi et de l'activité en France.
Quatre députés des Républicains ont exprimé une certaine impatience face à la présidence de Laurent Wauquiez, qu'ils estiment trop inactif, pas suffisamment offensif. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison ?
Écoutez, Laurent Wauquiez est élu pour 5 ans à la tête des Républicains. Il s'inscrit donc dans un temps long. Sa volonté, c'est de reconstruire et de refonder de fond en comble notre famille politique après les déboires des élections présidentielles et législatives. Donc forcément, ça prend du temps. La séquence numéro 1 était la séquence de la refondation, autour d'une équipe dirigeante rajeunie et nouvelle. La séquence numéro 2 est celle de la reconstitution de nos fédérations, avec la nomination des secrétaires départementaux et les élections en septembre des présidents de fédération. On va ensuite rentrer dans une séquence numéro 3 qui sera celle des idées, sur laquelle nos jeunes députés, qui ont du talent et qui l'expriment, ont toute leur place, avec notamment la question du shadow cabinet, avec la question également qui est posée de comment chaque parlementaire peut s'impliquer dans la vie du mouvement. Moi, ce que je souhaite en tant que vice-président, c'est qu'on fasse confiance à nos jeunes élus, qu'on fasse confiance à nos jeunes parlementaires, et je pense qu'ils ont toute leur place au sein de notre famille politique.
Alors, ces quatre députés réclament en effet la création de ce shadow cabinet sur le modèle britannique, une sorte de gouvernement de l'ombre, si on traduit littéralement, ou de contre-gouvernement, ce qui permet à chacun de s'occuper d'un dossier précis. C'était une promesse de campagne de Laurent Wauquiez. C'est toujours à l'ordre du jour ?
Oui, simplement, il faut trouver le bon moment, le bon timing et surtout la bonne mesure. Parce que, je vous prends un exemple, au Canada, le shadow cabinet, c'est quelque chose d'institutionnalisé au Parlement, ce qui n'est pas le cas en France. Et toutes les tentatives ont échoué. La volonté de Laurent Wauquiez, c'est que la droite réinvestisse le champ des idées. Et pour réinvestir le champ des idées, il nous faut des parlementaires, notamment des jeunes qui sont spécialistes sur tel ou tel sujet, qui puissent contrer le gouvernement et s'exprimer, soit sous la forme d'un shadow ou d'une autre forme, mais en tout cas, il y aura quelque chose pour justement l'expression de ces idées.
Ces députés déplorent également, je les cite, de subir l'agenda imposé par Macron. On ne produit rien, disent-ils. Un jour, on soutient sa réforme de la SNCF. Le lendemain, on fustige sa politique d'immigration. Il faut qu'on trouve notre propre voie. Vous avez parlé de séquences et vous avez dit que celle des idées allait venir. Mais est-ce que c'était pas celle à mettre en premier quand même ? Les idées, c'est important, non, pour un parti politique ?
Notre opposition, c'est une opposition libre et responsable. Quand on est libre et responsable, et quand on a soutenu la réforme de la SNCF, même quand c'est d'autres qui la présentent, on la vote. Et c'est comme cela qu'on voit notre reconstruction de l'opposition. Ensuite, il n'est pas le temps encore venu du projet politique, du programme politique en tant que tel. Il est venu de que la droite réinvestisse le champ des idées. Par exemple, sur la question de la crise de l'hôpital, sur la fracture des territoires. Mais certes, je crois que Laurent Wauquiez a réussi une chose, c'est d'imposer des marqueurs de droite sur le pouvoir d'achat, sur la politique migratoire ou sur encore la fracture des territoires. Ce sont quand même trois marqueurs de droite qui, depuis un an, se sont imposés dans le débat public. Alors bien sûr qu'il reste encore beaucoup à faire. Bien sûr qu'il faut peut-être que davantage on maîtrise notre propre agenda politique. Mais ceci va commencer avec le Conseil national qui aura lieu sur les élections européennes, parce que l'Europe est un enjeu important pour la famille des Républicains. Et ensuite, avec ce Tour de France des territoires. Je pense que aujourd'hui, on est dans une phase qui est une phase où on doit retrouver de l'audience et de la crédibilité. Et l'un ne va pas sans l'autre, mais il faut savoir être patient pour retrouver les armes que la droite a perdues.
Est-ce que la vérité, Damien Abad, ce n'est pas que les Républicains sont dans une situation durablement inconfortable parce qu'Emmanuel Macron, et d'ailleurs certains le disent très explicitement chez vous, est le président de droite dont ils ont toujours rêvé?
Je pense que c'est une fausse idée et qu'il n'y aura rien de durable là-dedans. Parce que c'est vrai qu'il y a un électeur sur deux aujourd'hui de notre famille politique qui peut être séduit. Mais séduit par quoi? Par le verbe, par le mot, mais pas forcément par l'action ni par le résultat. Et les résultats permettront de juger, et les Français jugeront d'eux-mêmes. Et on verra qu'il y a un gouffre entre des paroles qui sont parfois de droite et des actes de gauche. Vous savez, le président de la République, c'est aussi le président des fractures et des factures, de la fracture des territoires, de la fracture sociale et générationnelle, comme on le voit sur la question de la CSG, mais aussi des factures avec l'augmentation du diesel, l'augmentation du fuel, et toute une série de mesures qui finalement vont à l'encontre du pouvoir d'achat des Français et qui est l'inverse d'une politique de droite.
Une illustration de cette emprise, de cette séduction qu'exerce La République En Marche au sein des Républicains, c'est que certains chez vous envisageraient de faire des alliances avec La République En Marche pour les municipales de 2020 et que Laurent Wauquiez, dit-on, pourrait fermer les yeux. Est-ce que cette information est juste?
Non, ce qui est dit, ce sont deux choses. La première, c'est que nous aurons des candidats républicains
partout
en France. Ouais. La deuxième, c'est que quand vous avez des communes de 10 000, de 15 000, de 20 000 habitants, c'est le leader de la liste qui va lui-même constituer sa propre liste. Mmh. Et on a le droit d'avoir une liste qui soit ouverte. Quel est notre objectif?
Donc si on veut faire venir La République En Marche pour faire bien sur l'affiche, il n'y a pas de problème.
Mais comme ça s'est toujours fait. Comme ça s'est toujours fait avec le MoDem, par exemple, Frédéric Rivière. La vérité, c'est quoi? C'est que la chance qu'on a, c'est qu'on est un parti ancré sur les territoires. Et donc, on a beaucoup de maires sortants qui sont soit républicains, soit divers droites. Eh bien, ces maires-là, on ne va pas leur dire, il faudra falloir que vous preniez sur la liste 8 républicains sur les 10, par exemple, ou 15 sur les 20. Non, ce qu'on dit, c'est simplement qu'il y a pour nous une ligne rouge à ne pas franchir, qui est celle de l'adhésion à La République En Marche, pour celui qui tirera la liste. Mais à partir de là, les choses sont ouvertes. Pourquoi? Parce que nous, on veut un rassemblement sur les idées et sur les territoires. Et ce qu'on veut démontrer, c'est que la droite, elle est beaucoup plus ouverte que ce qu'on pourrait croire. La volonté du président de la République, c'est de faire croire qu'on serait dans une droite qui serait caricaturale, ringarde et repliée sur elle-même. Eh bien, les élections municipales, ça sera l'heure de vérité où on verra une droite ouverte, généreuse, ancrée sur les territoires et qui fait confiance aux élus locaux.
Elle est tellement ouverte qu'elle est éclatée aujourd'hui, même la droite, en fait.
Oui, mais ça, c'est malheureusement l'échec de la présidentielle plus législative. Bien sûr qu'elle est éclatée, mais sauf que, dans le même temps, on a quand même un parti politique qui est en ordre de marche. On a quand même des militants qui ont résisté à toutes les crises politiques. Je ne sais pas si un seul parti politique en France pourrait résister à autant de crises comme il l'a connu ces dernières années. Donc oui, on est en phase refondation. Pas de langue de bois, je ne suis pas en train de vous dire que tout va bien, mais on a besoin de ce temps de refondation et on a besoin aussi d'unité. Vous savez, sur le terrain, ce que les militants et les sympathisants nous disent, mais arrêtons ces combats d'arrière-garde, on a besoin aujourd'hui de s'unir sur des convictions communes.
D'un mot, comment faut-il réagir selon vous à ce qui s'est passé dans la ville du Pontet, dans le sud de la France, dans le département du Vaucluse, où des Turcs qui habitent sur place ont contraint un kiosque à retirer la une du magazine Le Point, dont le gros titre est Erdogan le dictateur.
Deux remarques. La première, c'est qu'il ne faut pas mettre toute la communauté turque dans cet acte-là, parce qu'il y a beaucoup de Turcs en France et qui sont respectueux de la démocratie et de la liberté de la presse. La deuxième, c'est que c'est une atteinte absolument scandaleuse et anormale de la liberté de la presse, de la liberté d'expression en France. Et que cette atteinte doit être condamnée. Et puis, au-delà de cela, nous n'avons pas de leçon de démocratie ou de politique à recevoir de l'extérieur. Donc, moi, je soutiens toutes celles et tous ceux qui sont intervenus dans ce sens-là. Et je trouve effectivement que c'est une escalade communautariste qui est dangereuse, sur laquelle nous devons être très vigilants.
Merci, Damien Abad. Merci. Bonne journée.